On pense souvent que partir voyager en famille, c'est offrir une liberté incroyable aux enfants. Mais très vite, une question revient toujours. Et l'école, on en fait quoi? Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast du blog Changer de vie et voyager. Je suis Aurélia et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une question qui revient tout le temps quand on échange avec d'autres familles. Comment on fait pour l'école en voyage? Mais comment faites-vous pour l'école? C'est une des questions qu'on nous pose le plus souvent depuis que nous avons quitté notre maison pour vivre sur un bateau avec nos deux enfants de 11 et 12 ans. Il n'existe pas une seule bonne méthode de scolarité en voyage, mais des solutions à adapter à chaque famille, chaque enfant, chaque style de vie. La vérité, ce n'est pas facile tous les jours, surtout quand on n'est pas instite et qu'on manque de patience, comme c'est mon cas. Il y a des jours où j'ai envie d'abandonner, mais je tiens bon. Jonathan me remplace ou m'aide quand c'est trop difficile, quand les enfants ne sont pas coopératifs ou quand je ne suis pas assez calme. Et franchement, c'est bien d'avoir un remplaçant. Aujourd'hui, je vais te partager notre expérience, nos erreurs, nos réussites et les différentes options pour gérer l'école en voyage. Avant même de choisir une méthode, il y a une chose essentielle, se poser les bonnes questions. Est-ce que tu veux que tes enfants suivent le programme de l'éducation nationale? Est-ce que tu privilégies l'autonomie et la curiosité? Combien de temps tu peux y consacrer? Et surtout, quel est ton rapport à l'école classique? Nous, on voulait que nos enfants gardent un niveau solide en français et en maths, mais aussi qu'ils développent leur autonomie, leur curiosité et qu'ils s'ouvrent au monde à travers le voyage. Concrètement, c'est moi qui fais l'école tous les matins, même le week-end. Mais il y a régulièrement des jours qui sautent, parce qu'on visite ou parce qu'on est en navigation. Et dans ces moments-là, ce n'est pas vraiment possible. Et surtout, pas d'école l'après-midi. Sinon, on aurait l'impression de ne faire que ça. Et ce n'est vraiment pas le but du voyage. Quand on était encore en Europe, on utilisait souvent nos visites comme support d'apprentissage. Je pense notamment à Carthagène en Espagne. On y a passé quelques jours et au même moment, il y avait une grande fête historique. La ville célébrait son passé avec des défilés, des costumes, des Romains, des Carthaginois. Et là, c'était comme un cours d'histoire en live. En plus des musées et des animations, on a complété avec des vidéos. Et les enfants ont adoré. Ils se sont vraiment passionnés pour le sujet. Quand on parle de scolarité en voyage, il existe plusieurs options. Il y a l'instruction en famille. Aujourd'hui, il faut faire une demande d'autorisation. Si elle est acceptée, c'est très libre dans la façon d'enseigner, mais ça demande une bonne organisation. Et il y a un contrôle académique chaque année. Nous, on avait fait les démarches, mais comme on est en voyage hors de France, on ne dépend plus vraiment de ce cadre. Donc, pas de CNED réglementé, et pas de contrôle académique. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. L'instruction reste une obligation. Et pour nous, ce n'était pas une option de ne pas faire d'école. Ensuite, il y a le CNED, une école à distance officielle avec le programme de l'éducation nationale. C'est assez structuré, avec des devoirs à rendre. On connaît des enfants de bateau qui le font et ça fonctionne bien. Il existe aussi d'autres écoles à distance, avec parfois une charge de travail importante. Et avec plusieurs enfants, ça peut vite devenir contraignant. Il y a aussi les plateformes pédagogiques, plus souples, plus interactives. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on a choisi. On utilise une plateforme en ligne, en complément de cahiers d'exercices. Et on aime beaucoup ce format. C'est plus structuré que ce qu'on faisait au début, tout en restant suffisamment souple pour s'adapter à notre rythme de voyage. On trouve aussi que c'est plus complet, notamment pour bien ancrer les notions. Comme souvent en voyage, on avance par essai, par erreur et ajustement. Il existe aussi une autre approche, l'unschooling, un apprentissage libre basé sur les centres d'intérêt de l'enfant. Certains bateaux font ce choix, ce n'est pas notre approche, mais les enfants adorent. Pendant 2 ans, nous avons utilisé des cahiers. C'était simple, coloré, plutôt clair, mais il n'y avait pas toujours assez d'exercices pour bien assimiler. Malgré ça, on a réussi à garder un bon équilibre entre école et voyage. Et c'était le bon compromis à ce moment-là. À un moment, Luna, notre fille, a voulu faire sa rentrée en sixième pour découvrir le collège. On a donc fait une pause d'un an en Martinique. Et aujourd'hui, on est reparti. Le voyage continue et on continue d'ajuster au fur et à mesure. Au quotidien, on utilise aussi plein d'outils simples, des cahiers de vacances, des applis comme Duolingo pour les langues et surtout tout ce qu'on vit. Les visites, les musées, les rencontres et toutes les discussions qu'on a avec eux. Les enfants ont tellement de questions et c'est là qu'ils apprennent énormément. Alors oui, ce n'est pas toujours simple. Il faut du temps pour trouver son rythme. Tous les jours ne se ressemblent pas et ce n'est pas grave. Et surtout, ce n'est pas toujours évident d'être maman et maîtresse en même temps. Mais une chose est sûre, l'école classique n'est pas le seul chemin. Les enfants apprennent partout, tout le temps, si on leur en donne l'occasion. Alors, si ce sujet te parle, si tu te poses des questions ou si tu envisages de partir, je t'invite à aller faire un tour sur le blog. On partage toute notre expérience, sans filtre. Et surtout, si tu veux échanger, poser des questions ou partager ton propre vécu, viens nous écrire en commentaire. C'était Aurélia du blog Changer de vie et voyager. J'espère que ce podcast t'a plu et t'a été utile. Merci de m'avoir écouté et je te dis à bientôt!